Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Continuons l'article 2 du catéchisme. En Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, nous croyons. Et nous avons parlé de Jésus, ce mot Jésus, qui veut dire Dieu sauve, qui au numéro 430 de l'article 430 de le paragraphe 430 de l'article 2, pardon. Au paragraphe 431, cela commence avec « Dans l'histoire du salut, Dieu ne s'est pas contenté de délivrer Israël de la maison de servitude en le faisant sortir d'Égypte, etc. » Cela me fait penser que dans notre entretien précédent sur Jésus, je parlais de l'économie du salut. Dans le mot « Jésus », le Seigneur sauve, qui l'inscrit dans un peuple, dans une histoire, avec un nom que d'autres ont pu porter, mais qui, quand il s'agit de Jésus, prend une valeur très programmatique de ce que Dieu veut faire pour nous. Je vais utiliser le mot d'économie du salut. Peut-être est-il utile de bien préciser pourquoi on parle de cette économie du salut, qui signifie une histoire. Le mot économie renvoie à cette réalité de la maison que l'on gère.
La maison que l'on gère, exactement, et non pas l'économie dont on entend parler dans les médias. Évidemment, l'économie monétaire, l'économie des transactions internationales qui ont eu lieu. Là, on est dans l'économie, c'est-à-dire la maison terre, la maison habitée par les hommes, qui se distingue de la théologie de Dieu en lui-même, qui se révèle à travers Jésus-Christ, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique, trois fois saint, mais qui prend miséricorde de notre dimension humaine et vient s'inscrire dans notre histoire. Et c'est finalement la grande parole de Dieu à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple ». Et cette misère fait que Dieu intervient dans l'histoire.
Quand on prend le mot, donc économie étymologiquement, c'est la gestion,
de la maison.
Economia,
ouais, exactement.
Oui. Et du coup, cette maison, c'est notre monde.
Alors cette maison,
c'est la création.
C'est la création, c'est notre monde, mais c'est le monde habité par l'homme. Hein, donc c'est la oikia en grec veut dire la maison habitée. Et c'est cela qui d'ailleurs sera en dérivé le mot œcuménique, quand on parlera de concile œcuménique, c'est-à-dire l'endroit où il y a des chrétiens qui se réunissent parce qu'ils sont dispersés à travers le cosmos de la Terre et ils se réunissent pour faire concile. Mais cette œcuménique, ça représente l'ensemble de la maison habitée par les hommes. Et Jésus a dressé sa tente parmi nous, c'est le début du prologue de Saint Jean, Eschénocène, Jean 1,14, il a dressé sa tente parmi nous, comme au désert, Dieu, par son nom, était venu se rendre présent sous la tente pour parler face à face avec Moïse et pour accompagner le peuple dans le désert. Et nous avons une nouvelle manifestation de cette tente que Dieu veut habiter. Il se réjouit d'habiter parmi les enfants des hommes, comme dit l'Ancien Testament. Et c'est ce à quoi nous assistons avec la venue de Jésus dans cette économie terrestre, donc dans cette histoire du salut.
Donc voilà, il est important, je pense, de rappeler ce mot économie. Donc, dans cette histoire du salut, il y a celui que Dieu, que le Père envoie, le Fils, qui est Fils de toute éternité. Mais ce nom de Jésus, on trouve dans l'Écriture, là je cite aux Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, qui est cité par le paragraphe 432, « Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il y a une sorte d'attachement particulier au nom même de Jésus. D'ailleurs, oui. Notre ordre en sait quelque chose, si je puis dire.
Oui, nous avons été particulièrement sollicités par le Saint-Siège pour toujours être ceux qui auraient la mission de magnifier, d'honorer, de prêcher le nom de Jésus, le doux nom de Jésus. Et le catéchisme rappelle combien il a été effectivement cher aux générations de chrétiens à travers l'Ave Maria, par exemple, qui culmine avec l'expression « Jésus, le fruit de tes entrailles est béni » ou la prière orientale, la fameuse expression « Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur ». Et on sait que les Grecs ont repris ainsi cette parole de l'aveugle sur le chemin de Jésus à Jéricho, qui est guéri, et qui donc s'était tourné vers Jésus pour être guéri en utilisant cette expression qui est ramassée en cinq mots maintenant par nos frères orientaux, « Kyrie Issou Christe eleison me » et qui fait pendant à 1 Corinthiens 14, 19, où saint Paul dit qu'il vaut mieux dire cinq mots avec son intelligence, avec sa raison, que 10 000 en langue. Ouais. Il faut se souvenir de cet aspect important, que le nom de Jésus à lui-même est plus grand que tout et doit être magnifié en premier. Et alors dans le nom, il y a quelque chose de très fort, parce que déjà dans l'Ancien Testament, lorsque l'on dit le nom, c'est la présence de quelqu'un. Et ce n'est pas pour rien que Moïse demande à Dieu, au moment du buisson ardent, « Quel est ton nom ?» pour pouvoir le transmettre et pour pouvoir dire qui vraiment l'a mandaté. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit « Je suis ». Tu diras aux Israélites « je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et ce « je suis » va orienter la contemplation du nom de Dieu, mais d'un nom encore caché, d'un nom unique, d'un nom qui se manifeste dans l'histoire sainte à travers toute l'histoire des générations de Abraham jusqu'à Jésus, mais qui va tout à coup s'éclore un peu plus dans le nom même de Jésus, la deuxième personne de la Trinité, qui va nous révéler un nom de Fils par rapport au Père, et en même temps le Saint-Esprit qui procède de l'amour des deux. Et donc ce nom est très important, puisqu'il nous manifeste la présence amoureuse de la deuxième personne de la Trinité dans notre histoire sainte, dans l'économie du salut, pour reprendre l'expression qui était chère. Et je crois que ce nom de Jésus, nous devons l'entretenir comme un trésor important. Et on voit par exemple, lorsque les premiers apôtres sont traduits devant le Sanhédrin et qui sont un peu malmenés, finalement ils sont relâchés parce qu'on ne peut rien leur reprocher, on leur interdit cependant de parler au nom de Jésus. Et pour eux, ils s'en allèrent du Sanhédrin, est-il dit au chapitre 5, verset 41, « Tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom. » C'est très fort, c'est-à-dire on ne dit pas pour Jésus, pour le Christ, pour celui que l'on appelle le Seigneur, le Messie, le Fils de Dieu, pour le nom. C'est-à-dire le nom de Jésus à lui-même est devenu comme un équivalent du nom dans l'Ancien Testament. Et c'est d'une certaine manière une façon d'annoncer très clairement la divinité de Jésus. Puisque ce nom qui transcendait tous les noms, c'était le nom du Seigneur Adonai dans l'Ancien Testament, tout à coup, ce nom de Jésus devient le nom par excellence dans lequel Dieu se manifeste. On comprend très bien que juste par cette expression, les apôtres se mettaient vraiment en porte-à-faux avec le Sanhédrin et avec la communauté juive qui avait réservé le nom de Dieu une telle attitude que pratiquement il était devenu imprononçable. Et on sait que quelques siècles avant Jésus, environ 130 ans, le dernier qui ait prononcé le nom de Jésus d'une manière presque imperceptible, 135 ans environ, Shimeon, le grand prêtre, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon des Juifs, au mois d'octobre, au mois de Tishri, eh bien, ne faisait plus que le murmurer de telle sorte que les premiers rangs n'arrivent pas à bien l'entendre, parce que c'était tellement saint. Il fallait éviter, le grand prêtre avait le droit de le dire, alors mais derrière le rideau, mais il était obligé de le dire sept fois, et une bonne partie des autres fois, c'était devant les prêtres qui étaient là devant. Mais pour éviter que ce soit trop entendu, il ne faisait que le murmurer de peur de prononcer en vain le nom de Dieu. Car il ne faut pas oublier que parmi les 10 commandements, il y a le très saint commandement, tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu. Donc la peur de prononcer en vain le nom de Dieu faisait qu'on en réduisait l'extension et on l'entourait d'une certaine manière d'une haie pour empêcher qu'il soit mal prononcé. Donc même le grand prêtre qui avait le devoir de le dire le jour du grand pardon d'Israël, une fois par an, dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints et juste en face, eh bien, se préservait pour éviter de créer un hiatus par rapport à ce commandement et que le peuple en subisse les conséquences vengeresses. Donc on comprend que ce nom a pris une importance extrêmement forte et nous voyons qu'il va devenir l'argument, voyez, du nouveau Yom Kippour dans le christianisme qui est la crucifixion de Jésus. Tout le numéro 433 l'évoque, le sang du sacrifice, et évoque le propitiatoire qui était le lieu de la présence de Dieu. Et saint Paul dit de Jésus que Dieu l'a destiné à être propitiatoire par son propre sang. Romains 3, 25, et on sent aussi exactement les mêmes accents chez saint Jean. Saint Jean, dans son épître, où il y a ces accents sur le propitiatoire, 1 Jean 2, 20, 2 déjà, c'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Et pareil, en 4, donc 10, et je finis par là, en ceci consiste son amour, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés.